Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année 2026, je vous présente mes vœux les meilleurs pour vous et tous ceux qui vous sont chers, en souhaitant que le patrimoine puisse faire partie de votre vie, qu'il soit urbain ou rural, qu'il soit paysager ou industriel. Industriel, nous ferons probablement un colloque sur ce sujet au cours de cette année. Lors de cette émission, je vous propose de nous plonger dans un patrimoine passé que nous n'avons pas encore mis au centre de nos entretiens. Un patrimoine dont raffolent les castellologues, c'est-à-dire un château et pas le moindre, puisqu'il s'agit de celui de Semur-en-Brionnais. Pour évoquer ce sujet, nous rencontrons Jean-Marie Jalles, administrateur du Centre d'études des patrimoines basé à Saint-Christophe-en-Brionnais. Ce centre d'études étant, soit dit en passant, incontournable pour préserver notre patrimoine et le faire connaître sur un plan international. Je profite de cette incidente pour signaler que, sans les associations, bon nombre de patrimoines disparaîtraient ou seraient dans un état de délabrement qui ne justifierait plus le tourisme qu'ils permettent et donc le développement économique de nos territoires. Rappelons tout de même que les associations représentent environ 4% du produit intérieur brut, et que, pour autant, elles ne sont pas toujours intégrées aux actions de développement de nos territoires. Mais revenons à notre sujet. Nous allons rencontrer Jean-Marie Jalles, c'est un chercheur bénévole au CEP, membre du Centre de Castellologie de Bourgogne, qui, après de nombreuses publications sur les châteaux, modes castrales, etc. et maisons fortes, nous accorde cet entretien. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Gérard.
Je suis heureux de vous recevoir pour que vous nous parliez de votre dernier ouvrage, ou plus exactement, du sujet auquel il est consacré, le château de Semur-en-Brionnais. Semur-en-Brionnais, c'est un des plus beaux villages de France qui est situé en Bourgogne du Sud, dans le département de Saône-et-Loire. Je souhaite, Jean-Marie, que vous nous parliez du château, non en vous adressant à des touristes, mais en nous apportant des connaissances que nous ne trouverons nulle part ailleurs. C'est un challenge que je vous donne et je suis persuadé que vous allez le réussir. Jean-Marie, que peut-on dire du château ?
Le visiteur de passage qui arrive dans ce petit bourg de Semur-en-Brionnais a naturellement le regard attiré par une haute et puissante tour qui semble veiller et protéger les maisons en dessous d'elle. C'est le donjon du château fort qui s'élevait autrefois en ces lieux. Et il est bâti sur la partie orientale d'un plateau qui contient également la basse-cour du château et l'église Saint-Hilaire. Puis, en contrebas, le village de Semur, qui domine au sud le ruisseau du Berdasson qui se dirige en direction de Marcigny et la vallée de la Loire.
Mais Jean-Marie, que dire des vestiges ?
Les vestiges du château appartiennent aujourd'hui à la famille de la Motte-Rouge qui le loue à l'association locale des vieilles pierres de Semur-en-Brionnais. Et elle s'est donnée pour mission de valoriser et sauvegarder ces vestiges. Les travaux de restauration du site ont démarré en 1968 grâce à Jean-Louis de Sougrégia, habitant de Semur, et de quelques bénévoles. Alors, les ruines du château ont été inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 13 octobre 1971. Il est ouvert au public du début mars jusqu'à début novembre et une petite exposition retrace l'histoire du château. Elle est installée dans la maison du geôlier, qui sert également de maison d'accueil.
Ce mur ne semble pas sur les grandes routes. Pourquoi un château en ce lieu ? Qu'est-ce qu'il justifie ?
Ce mur embryonnais, elle s'est constituée au sein de l'ancien pagus Augusto Dunensis, et elle est aux mains d'une famille révélée grâce au cartulaire du prieuré de Marcigny.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette généalogie ?
Elle est probablement réalisée vers cette époque, et elle remonte sur 8 générations. Alors cette généalogie est allée sur une dizaine de lignes et conforme à ce que l'on trouve pour d'autres lignées aristocratiques de cette période. Elle démarre par Fréland de Chamilliac de Chastaussignon pour finir à Geoffroy V. Donc le successeur immédiat de Fréland est Josserand de Semur, qui ouvre une longue lignée de seigneurs de Semur. Le plus puissant d'entre eux est Dalmas de Semur, guerrier réputé, surnommé Le Grand par ses contemporains. Alors son épouse Aramburge va lui donner 11 enfants, dont Hugues, qui est abbé de Cluny de 1049 à 1109. Une de leurs filles, Élie, elle va épouser Robert de France, qui est le duc de Bourgogne. Et Hugues de Smur, il fonde également avec son frère Geoffroy le prieuré de Marcigny en 1054. Et là, la famille de Smur est au fait de sa puissance à ce moment.
Vous nous rappelez qu'un château, ce n'est pas que des pierres, même bien agencées. C'est aussi une ou plusieurs lignées de châtelains de seigneurs qui se sont succédés. Quelle est la suite de cette histoire ?
Alors suivent ensuite les familles de Luzy, de Château-Vilain et de Beaujeu. Et cette longue suite de seigneurs de Saumur va s'interrompre à la mort d'Édouard de Beaujeu, décédé sans héritier en 1400. Et celui-ci a cédé en 1378 la châtellenie de Saumur à Guillaume de la Trémouille, qui est chambellan du duc de Bourgogne, et qui va l'échanger donc justement contre une terre du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Et dès lors, Saumur va relever de l'administration bourguignonne. Et ça va être dirigé par des capitaines châtelains.
Être rattaché au duc de Bourgogne, c'est bien jusqu'à Charles le Téméraire. Que s'est-il passé après la mort de Charles le Téméraire en 1477 ?
Alors, après la mort de Charles le Téméraire, le duché de Bourgogne est rattaché au domaine royal. La châtellenie et les ruines du château, pillées et incendiées lors de l'offensive lancée par les armées de Louis XI contre le sud du duché de Bourgogne fin 1472 ou début de 1473, seront alors aliénés à des seigneurs engagistes. À partir de ce moment, le château n'a plus aucune vocation militaire. Alors le titre « charge et bénéfice » de baron engagiste se transmettant par contrat de vente, de nombreuses familles de la noblesse vont succéder les unes aux autres, comme les Damas, les Tenay, Chabannes, Damanger, Savary, Coligny et les Dupuis. Ils ne résident évidemment pas sur place et ils nomment des capitaines pour les suppléer.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il y avait encore un château ?
Non, il était ruiné et incendié. Donc il n'y avait plus.
Ah oui, alors à quoi pouvait-il ressembler ?
On ne sait pas à quoi ça ressemblait à l'époque. Alors, Jacques-Augustin Dupuis, écuyer, sera le dernier seigneur engagiste de Smur. Il décède en 1820 et ses descendants continueront d'être maires et barons de Smur. Et au début du XXe siècle, Yvonne, fille de Max Dupuis, et d'Odette de Cosnac, épouse Xavier de la Motte-Rouge, à qui elle transmet ce mur. Et cette famille est toujours propriétaire aujourd'hui des ruines du château.
Mais est-ce que ce château était important, pour ne pas dire imposant ?
Cette forteresse occupe toute la surface de l'extrémité du éperon dominant le village de ce mur. Victime des destructions et des vicissitudes du temps, elle offre aujourd'hui aux yeux des visiteurs, des vestiges importants. L'élément le plus imposant est le donjon du château, qui est bâti sur la partie orientale du plateau. L'élément du central est donc la tour maîtresse, le donjon, donc construction massive de 22 mètres de hauteur environ. Il est construit sur une petite éminence, au moins partiellement artificielle, et sa base, en partie emmotée, sera dégagée en 1970. Intérieurement, il se divise en 4 niveaux appartenant à 3 phases de construction, 10e, donc 12e, 13e et 14e, 15e. Jusqu'à l'intervention du CECAB, Centre catholique bourguignon, on ne savait pas avec certitude à quelle date le donjon avait été construit.
Mais Jean-Marie, pour le spécialiste que vous êtes, CECAB a certainement une signification. Mais que veut dire exactement cet acronyme ?
C'est une assuration loi 1901. Donc, qui a entrepris de faire l'inventaire, qui a fait de faire l'inventaire de tous les sites fortifiés en Bourgogne.
Nous recevons aujourd'hui Jean-Marie Jal, castellologue, qui nous parle du château de Semur-en-Brionnais. Est-ce qu'on connaît la date de la construction du château ?
En 2008, une datation de fragments de charbon de bois prisonnier dans le mortier des murs de la base du donjon, va être faite par l'analyse du radiocarbone qu'il contenait, par l'université de Lyon 1. Le recoupement des deux analyses donne une construction très probable au milieu du Xe siècle, ce qui en fait un des édifices les plus anciens de Bourgogne, encore en élévation.
Mais on peut penser que le château ne s'est pas fait en une seule fois. Est-ce qu'on a une idée des phases de construction ?
La première phase de construction concerne les deux premiers niveaux, soit la moitié de l'élévation de la tour, donc qui est de plan rectangulaire, 10 par 15 mètres de côté environ. Les murs ont une épaisseur allant de 1,70 m à 1,95 m et sont constitués de moellons de calcaire irrégulier avec de nombreux nodules de silex rouge. Les murs sont percés de nombreux trous de boulin rectangulaires traversants pour les échafaudages. Et 8 petites rayères formées de blocs prismatiques de grès, peut-être issus de récupération, assurent l'éclairage et l'aération de ces deux niveaux. Alors, ils ne sont pas habitables et servent de lieu de stockage, ainsi que de soubassement à une probable tour en bois. où se trouve évidemment l'habitation du Seigneur.
Et qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire sur les matériaux utilisés ?
Alors, le plancher de ces deux niveaux est constitué de solives de petites sections qui reposent sur deux sablières de même gabarit et encastrées dans l'épaisseur du mur. Donc, le dernier niveau il est parfaitement conservé sur toute sa longueur et ne résulte pas d'un dérangement. Et il offre toutes les caractéristiques d'un arrêt voulu de la construction. Et il reste donc à imaginer un bâtiment en bois reposant sur une base de pierre, donc de deux niveaux. Il en existe encore aujourd'hui en Allemagne et en Suisse. Plus tard, au XIIe et XIIIe siècle, cette tour en bois elle va être remplacée par deux étages en maçonnerie, donc assises sur la rase du soubassement. Alors au troisième niveau, on trouve deux portes hautes sur les petits côtés qui permettent d'accéder à la tour. On trouve également plusieurs cheminées, fenêtres à coussièges, des jours en archère, sous-niches, qui sont visibles à l'intérieur. Donc à partir de 1378, le château donc, passe à l'administration bourguignonne et il va bénéficier de nombreux travaux. Les cheminées sont refaites et des grandes fenêtres à meneaux vont remplacer les anciennes baies, donc celles qu'on voit aujourd'hui. On peut penser que cette tour était surmontée d'un cinquième niveau défensif, dont on dit au 15e qu'il était surmonté d'une toiture à quatre pans en essaule, donc en tuile de bois, et percée de lucarnes. On va également, à cette époque, faire une nouvelle porte à pont-levis.
Mais je crois savoir qu'au XIIe siècle, la construction a évolué.
Alors, au XIIe siècle, le donjon va être entouré d'une enceinte ou chemise comportant deux tours à base talutée, donc qui sont encore existantes aujourd'hui, qui encadrent le pont-levis qui franchissait le fossé et qui permettait d'accéder à la basse-cour du château. Alors, ces tours sont défendues par de longues archères étriées et elles comportent deux niveaux voûtés en coupole. Le dernier niveau, il est tronqué et couvert d'un toit de tuiles. Alors, la porte d'entrée, donc, aujourd'hui, a été remplacée par un mur aveugle. Elle était à l'origine défendue par une herse et sans doute par un mâchicoulis sur arcade. Les accès à ces tours ont été très remaniés lors de la construction de la nouvelle prison en 1780, ainsi que de l'auditoire. Voilà, on va trouver des murs pour les jardins du geôlier, pour le jardin des prisonniers, donc également l'accès pour monter aux tours.
Concernant les évolutions des usages de ces bâtiments, vous nous parlez d'une prison.
Elle existe sans doute depuis le 17e, on va dire, et donc déjà dans les tours rondes de l'entrée, le geôlier, lui, il fallait qu'il loge dans une maison du bourg de Smur. Et ensuite, il fallait franchir le fossé pour accéder aux tours. Et il n'y avait plus de pont. Ça a donné lieu à d'importants procès avec le pouvoir royal, qui évidemment estimait que c'était aux seigneurs engagistes d'assurer l'entretien des prisons. Et évidemment, les seigneurs engagistes estimaient que c'était au pouvoir royal de payer. Et c'est ce qui va se passer en 1780.
Donc il y avait déjà des difficultés entre le pouvoir central et les territoires, c'est bien ça ?
Voilà, oui, tout à fait, oui.
Pouvez-vous expliquer davantage les raisons de la construction ?
Alors, pour expliquer la construction de cette forteresse, les érudits locaux pensaient qu'elle protégeait la région contre des incursions vikings ou hongroises, bon, qui restent quand même bien hypothétiques, vu qu'il n'y a pas grand-chose à piller en dehors de ce mur. Alors, l'hypothèse la plus plausible pourrait être que le comte de Châlons ou le duc de Bourgogne, voulant contrôler la frontière sud du Pagus Auguste du Nancis, contre les incursions des Auvergnats, qui étaient alors très menaçants à cette époque, les fait construire et laisser à la garde d'un de leurs vassaux. Et les Auvergnats seront finalement vaincus vers 1955, lors de la bataille de Chalmou, près de Bourbon-Lancy, par l'armée commandée par Lambert, comte de Châlons. Donc finalement, c'était les Auvergnats qui étaient beaucoup plus dangereux que d'hypothétiques vikings ou hongrois. Donc on ne sait pas s'ils sont réellement venus dans le sud du...
Est-ce que l'on peut penser que cette forteresse a véritablement été utilisée, a défendu quelque chose ?
L'heure de gloire du château, c'est au XVe siècle quand il va être sous l'administration bourguignonne. Il va y avoir les guerres entre les Armagnacs et les Bourguignons, et ensuite la guerre entre le roi de France et les Bourguignons. Et donc à chaque fois, le château va effectivement jouer un rôle. Et à la fin, il sera pris et brûlé.
Mais aujourd'hui, brûlé, il en reste quand même beaucoup de choses. Ça a été reconstruit, qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, il reste que ces tours, les deux tours et le donjon. Et tout le reste des murailles, il reste des petits morceaux en contrebas. mais toutes les murailles qui étaient sur les basses-cours, donc côté vallée, sont maintenant intégrées dans les maisons qui ont été reconstruites à partir du 16e. Et toute l'autre partie, là où se trouve également le séminaire de Semur, qui a des grands bâtiments, là, tout a été démoli, quoi. C'était qu'il ne reste qu'un petit bout, puisqu'on sait également, grâce au comte de Chaltény du 15e, qu'on avait différentes tours qui ont disparu aujourd'hui, donc qui étaient autour du château.
Et ces tours ne se retrouvent pas dans des maisons adjacentes, on n'a aucun élément sur le sujet?
Non, on n'a rien, on a juste quelques descriptions à l'époque du 15e, mais on ne sait pas, ça demande à faire encore une étude beaucoup plus précise pour voir dans les maisons qu'est-ce qui reste exactement.
Pourquoi vous avez étudié d'ailleurs ce château? Qu'est-ce qui vous a donné envie?
C'est déjà par rapport à un travail d'équipe avec le CECA, puisqu'on a commencé une petite étude sur ce château, et donc ça a permis d'accumuler un certain nombre de renseignements, d'archives, également de transcrire tous les comptes qui étaient liés au château, et donc pouvoir en tirer quelque chose.
Vous parlez d'archives, on a bien dû trouver des dessins, des gravures éventuellement qui permettent d'avoir une idée de ce qu'était le château à l'origine.
Hélas, rien. On n'a strictement rien sur le château. Les seuls plans existants anciens, c'est les plans de 1780 qui ont été faits pour la construction de la prison et de l'auditoire.
Et comment se passaient les liaisons entre le château et le duc ?
Chaque châtellenie était indépendante et donc commandée par un capitaine châtelain. Quand il y a un événement qui arrive, on envoie des guetteurs, on envoie des messagers pour savoir ce qui se passe. Et également, s'il y a besoin d'avoir une garnison plus importante, on envoie un mot au duc pour réclamer une garnison de gendarmes pour pouvoir défendre le château.
Eh bien, merci Jean-Marie. Vous nous avez fait faire connaissance de ce château sous un jour bien nouveau et très inattendu, dû à l'étendue de vos recherches. Tant de connaissances donnent envie de découvrir votre livre. Je sais qu'il est disponible au CEP et qu'on peut le trouver en téléphonant au 03 85 25 90 29 ou en s'adressant à cette association sur cep-charolais-brionnais@gmail.com. Cette émission se termine. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Mais en attendant, continuez à vous faire plaisir en écoutant RCF en Bourgogne.